Chapitre 28. Dans un coin de la première salle du pavillon, Callan avait pris place sur une petite chaise. Non loin de là, Gillian était assise en tailleur sur un épais tapis. De temps en temps, Callan jetait un coup d'œil à Ulysia et à Armina. Très concentrées, les deux sœurs comparaient des ouvrages, les fameuses clés pour l'ouverture des boîtes d'Orden. Lisant chaque phrase plusieurs fois, elles cherchaient des différences. D'autres sœurs prisonnières de Jagang avaient trouvé un troisième grimoire dans les catacombes du palais du peuple, très récemment découverte. Déjà en possession de deux exemplaires du livre, celle du palais des prophètes que Jagang détenait depuis longtemps et celle de Casca, Armina et Ulysia avaient désormais une troisième source de référence. Sans le grimoire des ombres recensées, manipuler la magie d'Orden était impossible. Mais il y avait un problème avec deux des copies. Sur le dos, le titre indiquait « Grimoire des ombres repensées ». Une coquille presque impossible à détecter parce que l'œil rectifiait de lui-même ce genre d'erreur. Ulysia et Armina n'étaient pas d'accord sur l'importance qu'il fallait accorder à ce détail. D'après ce que Callan avait compris en surprenant des bribes de conversation, il existait six exemplaires du grimoire. L'original, une copie fidèle et quatre contrefaçons. Jagang avait à ce jour réussi à réunir trois des cinq copies. Trouver les autres était pour lui une priorité et plusieurs personnes consacraient leur vie à cette quête. L'ouvrage découvert par hasard sous le palais du peuple, un bénéfice indirect de la construction de la rampe géante, ne présentait pas de coquille dans le titre. Cet élément laissait penser que les deux autres étaient des faux, comme l'affirmait Callan, l'ouvrage le plus récemment découvert se révélant être authentique. Mais comment en être certain avant d'avoir sous les yeux les autres exemplaires? Callan se demandait ce qu'elle ferait si l'empereur lui demandait d'attester la véracité du troisième ouvrage. Comme les sœurs l'avaient rappelé au tyran, il fallait une inquisitrice pour vérifier l'authenticité du grimoire. Au cours de sa captivité, Callan avait fini par comprendre qu'elle était une des personnes qualifiées pour cette opération. Mais qu'était donc une inquisitrice? Comme les autres éléments de son passé, cette notion avait sombré dans l'oubli. Par conséquent, elle ignorait comment s'y prendre pour identifier la bonne copie. Jagang s'était fichu comme d'une guigne de ses difficultés. Elle devait remplir sa mission, et voilà tout. La coquille avait été un moyen bien commode de trancher au sujet des deux premiers exemplaires. Mais comment allait-elle se débrouiller avec le troisième? Le titre collait, et un sort de protection lui interdisait de voir le texte. L'arrivée de Nietzsche ayant fait diversion, Jagang n'avait pas encore exigé que sa prisonnière évalue le livre. Mais il le ferait au tout tard, et si elle ne pouvait pas répondre, ce serait à Gillian d'en payer le prix. Jusque-là, les sœurs n'avaient trouvé aucune différence entre les trois exemplaires. De toute façon, qu'est-ce que ça aurait prouvé? S'il s'agissait de trois faux, ils pouvaient diverger de toutes les façons possibles et imaginables sans que l'empereur et ses deux complices en soient plus avancés pour autant. Sur un échantillon de trois ouvrages, il était absolument impossible de trancher, à moins de pouvoir identifier l'original, bien entendu, mais ça aurait été trop facile. Sans disposer de tous les ouvrages encore existants, pas question de résoudre l'énigme. Malgré ses caprices de tyran, Jagang ne pouvait pas être passé à côté de cette simple vérité. C'était sans doute pour ça qu'il avait chargé des agents à lui de découvrir coûte que coûte les exemplaires manquants. À tout hasard, il forçait quand même les sœurs à recenser les différences, juste au cas où. Pour le moment, le mystère du grimoire était passé au second plan dans son esprit. Obsédé par Nietzsche depuis qu'on la lui avait livré, il en avait oublié jusqu'aux rencontres de Jala. Et depuis le soir de l'atroce viol, il n'avait plus invité de femme dans son lit. À croire qu'il cherchait à prouver la sincérité de ses sentiments à l'ancienne maîtresse de la mort, comme s'il pouvait encore la conquérir. Bien entendu, Nietzsche se montrait d'une froideur polaire. Ce détachement hautain fascinait Jagang. Peu enclin à la patience dans le domaine des relations humaines, alors qu'il était un stratège capable de tisser sa toile pendant des années, le tyran en devenait de plus en plus violent. En le défiant, Nietzsche aggravait encore son calvaire. Quand son tour viendrait, Callan ne voyait guère quelle autre attitude adopter, même si ça lui coûterait cher. En plusieurs occasions, après une crise de fureur, Jagang avait pris conscience un peu trop tard qu'il était allé trop loin. Chaque fois, les sœurs étaient parvenues à sauver la magicienne, souvent en passant très près de la catastrophe. Pendant qu'elles officiaient, l'empereur faisait les 100 pas dans la chambre, l'air coupable et penaud. Mais dès que sa proie se rétablissait, il reprenait ses vieilles habitudes et accusait Nietzsche de l'avoir forcé à sortir de ses gonds. De temps en temps, par exemple la nuit précédente, il exilait Callan et Gillian dans une autre salle afin de rester en tête-à-tête avec Nietzsche. L'idée du romantisme que se faisait une brute assoiffée de sang, sans nul doute. La veille, avant d'entrer dans la chambre, Nietzsche avait croisé le regard de Callan. Un bref moment de compassion et d'amitié entre deux femmes conscientes que le monde avait basculé dans la folie furieuse. Depuis le retour de la maîtresse de la mort, Jagang se fichait de tout, y compris du grimoire et du tournoi de Jala. Callan détestait le jeu de la vie, certes, mais elle avait terriblement envie de revoir le marqueur de l'équipe rouge, Ruben comme l'appelaient les soldats. En espionnant ses gardes, elle avait appris que l'équipe de Karg alignait les performances. Pas une seule défaite depuis le début de la compétition. La prisonnière se fichait des résultats. En revanche, elle voulait revoir l'homme qui la connaissait et qui se peignait le visage pour ne pas être identifié.
« Regarde, »
dit Ulyssia en tapotant la page d'un des livres.
« Cette formule est différente des deux autres. »
Callan vit les sœurs se pencher sur les 3 ouvrages ouverts devant elle. Les 2 gardes du corps de Jagang campés près de l'entrée avaient également les yeux rivés sur les érudites improvisées. Le duo de soldats réguliers, par contre, se désintéressait des sœurs. Ils surveillaient Callan, sachant que leur vie en dépendait. Mais là, il y avait dans leurs yeux une intensité qui... Le rouge lui montant au front, Callan tira ses cheveux sur le devant de son chemisier. Depuis que le bouton du haut manquait, son décolleté avait tendance à attirer tous les regards des exceptions.
« Oui, » confirma Armina, « la constellation est différente. C'est très curieux. »
« Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, vraiment. Et il n'y a pas que cela. Les azimuts sont différents. »
Ulyssia approcha une lampe à huile des ouvrages.
« C'est le cas sur les 3 copies. » « Nous ne nous en étions jamais aperçus sur les 2 premiers livres, mais c'est évident à présent. »«
Il est facile de rater ainsi un fin détail, du coup les 3 livres sont dissemblables. »«
Et tu en tires quelle conclusion ?»«
Eh bien, que nous sommes en présence de 2 faux au minimum, mais les 3 peuvent être des contrefaçons. »«
Bref, notre découverte ne sert à rien. »«
Il semblerait, oui, » soupira Ulyssia. « Mais son Excellence n'est pas homme à baisser les bras. Tôt ou tard, il découvrira les 3 exemplaires manquants et nous saurons enfin la vérité. »
Le rabat de l'entrée s'écarta soudain et Jagang poussa Nietzsche dans la salle. Déséquilibrée, la magicienne s'étala aux pieds de Callan. Elle réussit à ne pas montrer qu'elle voyait la mère inquisitrice. Depuis son arrivée, elle ne s'était pas trahie une seule fois. Callan lut de la colère dans le regard de Nietzsche, mais aussi de la souffrance et un désespoir sans limite. Qu'elle aurait aimé prendre la magicienne dans ses bras et la consoler en lui murmurant que tout finirait par s'arranger. Mais elle ne devait pas saboter leur petite comédie et elle n'avait pas le cœur de mentir à son amie de toute façon. Car rien ne finirait par s'arranger, ça sautait aux yeux.
« Qu'avez-vous découvert ?»
demanda Jagang en entrant. Ulyssia désigna un des livres. L'empereur se pencha, les sourcils froncés.
« Regardez, Excellence, les 3 diagrammes stellaires sont différents. »«
Lequel est le bon ?»«
C'est... Eh bien, il est beaucoup trop tôt pour le dire. »«
Oui, »
renchérit Armina.
« Il nous faut les autres exemplaires. »
Jagang foudroya la sœur du regard. Puis il eut une réaction qui ne lui ressemblait pas. Haussant les épaules, comme si tout ça lui était indifférent, il vérifia que Callan était bien sur la chaise où il lui avait ordonné de rester, Gillian installée à ses pieds.
« Continuez à étudier les livres, » dit-il aux 2 sœurs. « Je vais voir une partie de Jala. Surveillez la gamine. »
Tirant Nietzsche avec lui, il claqua des doigts à l'intention de Callan, lui indiquant de suivre le mouvement. La prisonnière se leva, prit son manteau et obéit, soulagée que Gillian reste à l'écart des soudards excités par le Jala. Même si Jagang pouvait à tout moment la torturer par l'intermédiaire des sœurs, la petite serait moins exposée en restant sous le pavillon. Avant de sortir, Callan fit signe à sa protégée de ne pas s'inquiéter et de se tenir tranquille. La fillette avait peur chaque fois que son amie l'abandonnait. C'était compréhensible, même si la présence d'une prisonnière impuissante ne changeait rien à sa situation. Devant le pavillon, une centaine de gardes d'élite armés jusqu'aux dents étaient déjà en train de se mettre en formation pour escorter l'empereur. Une demi-douzaine de soldats capables de voir Callan la flanquèrent comme à l'accoutumée. Prenant Nietzsche par le bras, Jagang se mit en chemin. Comme toujours, des centaines de regards masculins libidineux se posèrent sur Nietzsche. Même s'ils savaient qu'elle appartenait à leur chef, les soudards s'autorisaient à la reluquer en s'assurant que le tyran ne s'en apercevait pas, bien entendu. Chaque fois, Callan se réjouissait que ces brutes ne soient pas en mesure de la voir. Bien que le ciel fût plombé, les nuages ne paraissaient pas assez lourds pour qu'un orage éclate. La pluie se faisant désirer depuis des jours, le sol était dur comme la pierre. Par cette journée grisâtre, le camp semblait plus sinistre encore que d'habitude. Par bonheur, les multitudes de feux de cuisson masquaient en partie la puanteur ambiante. En chemin, Jagang demanda à un de ses gardes favoris, presque un aide de camp, de lui résumer le tournoi de Jala. L'homme fit un compte-rendu très précis, détaillant les résultats de chaque équipe.
« Si je comprends bien, les joueurs de Karg s'en sortent avec les honneurs. »«
Ils sont invaincus, Excellence. Cela dit, ils ont gagné par un plus petit écart que d'habitude hier. »
« J'espère qu'ils iront jusqu'au bout. J'adorerais voir mon équipe écraser ces bouffons peints en rouge. »«
Ils jouent aujourd'hui sur le terrain principal. Pour eux, c'est l'ultime partie avant le choc contre vos champions. S'ils gagnent en tout cas. Sinon, il faudra organiser des rencontres de barrage. » Alors que l'empereur s'entretenait avec son garde du corps, Nietzsche se tourna pour jeter un bref coup d'œil à Callan. À l'évidence, elle pensait au marqueur de l'équipe rouge dont sa nouvelle amie lui avait parlé. Alors que le terrain principal était encore loin, Callan vit des hommes applaudir et lancer des encouragements à leur équipe favorite. Même s'ils étaient trop loin pour apercevoir le bout des bottes d'un joueur, ils participaient à la rencontre par l'intermédiaire d'une chaîne complexe d'informateurs. Le terrain principal étant littéralement pris d'assaut, sans doute parce qu'il s'agissait d'une partie décisive. Des cris indiquèrent à Callan qu'une des équipes venait de marquer. Très agités, les spectateurs trop éloignés attendaient qu'on leur dise laquelle. Les gardes d'élite n'hésitant pas à jouer des coudes, la petite colonne atteignit bientôt la zone dégagée réservée à l'empereur et à sa suite. Se déployant en demi-cercle, les protecteurs de Jagang l'isolèrent des soudards et de tout danger potentiel. Placé derrière l'empereur et une partie de ses gardes, Callan ne voyait pas grand-chose et il lui était impossible de bien suivre l'action. Mais des rugissements de triomphe lui apprirent qu'une équipe avait de nouveau marqué. Entre les épaules des gardes, la prisonnière réussit à voir assez le terrain pour remarquer un détail étrange. Tout autour de l'aire de jeu, devant les spectateurs, de véritables colosses observaient la partie. Les mains croisées dans le dos et les épaules bien droites, tous ces athlètes étaient torse nus pour mieux exhiber leur incroyable musculature. Callan n'avait jamais vu une telle brochette de géants surpuissants. On eût dit des statues de bronze aux proportions démesurées. Alors que Jagang s'approchait d'une de ces montagnes de muscles, Nietzsche se retourna et souffla quelques mots à son ami.
« L'équipe de Jagang !»
Callan comprit aussitôt ce que faisaient les champions de l'empereur. Les vainqueurs de la rencontre en cours disputeraient contre eux la grande finale. Pour les narguer, leurs futurs adversaires venaient parader devant eux. De l'intimidation pure et simple et la promesse d'un combat à mort. Ayant aperçu l'empereur, le général Karg vint le rejoindre puis l'accompagna quand il décida de retourner auprès de ses protecteurs.
« Ton équipe fait des merveilles, dirait-on » fit Jagang après qu'une percée des rouges eut déchaîné un tonnerre d'applaudissements.
Karg tourna légèrement la tête vers Nietzsche, la regardant avec la concentration d'un serpent qui vient de repérer une proie.
« Mes gars sont très bons, Excellence, mais les vôtres sont imbattables et je le sais très bien. Les tiens sont également invaincus, mais ils n'ont pas encore fait face à une véritable opposition. Mes champions les écraseront, j'en suis certain. »
Karg regarda la partie en silence. Le score évoluait peu, signe que la rencontre était équilibrée, mais le général connaissait les ressources de son marqueur et il ne s'inquiétait pas.
Cela dit, si mes joueurs l'emportaient,
je dirais, au cas bien improbable où,
corrigea Jagang.
Au cas bien improbable où il gagnerait, donc, ce serait un grand exploit pour un modeste compétiteur tel que moi.
Le genre qui mérite une récompense hors du commun, c'est ce que tu veux dire?
Karg désigna les joueurs en plein effort.
Si mes hommes gagnent, Excellence, chacun aura le droit de choisir une femme. Est-il juste que l'homme qui a constitué et entraîné cette équipe n'ait rien du tout?
Jagang eut un rire mauvais qui donna des frissons dans le dos à Kalan.
C'est assez bien raisonné, oui. Dis-moi qui tu convoites et en cas de victoire, la belle garce sera à toi.
Karg fit mine de réfléchir intensément.
Excellence, en cas de victoire, je voudrais avoir Nietzsche dans mon lit.
La maîtresse de la mort foudroya l'impudent du regard. Son amusement oublié, Jagang jeta un bref coup d'œil à la femme qu'il n'avait guère quittée depuis des jours.
Nietzsche n'est pas disponible.
Karg regarda la rencontre, applaudit une belle phase de jeu, attendit que les cris enthousiastes se calment et repassa à l'attaque.
Si vous êtes certain de la victoire, Excellence, que risquez-vous? C'est un pari sans risque, du moins pour vous. Si je n'ai aucune chance de gagner, ma récompense restera à tout jamais virtuelle.
Pourquoi perdre notre temps avec un pari si stupide?
Que risquez-vous, Excellence? Vos champions gagneront, pas vrai? Ou auriez-vous l'ombre d'un doute?
Très bien, Karg. Pari tenu. Si tu gagnes, Nietzsche sera provisoirement à toi. J'insiste sur le provisoirement.
Bien entendu, Excellence. Mais de toute façon, ça ne risque pas d'arriver.
Exact.
Jagang se tourna vers Nietzsche.
Mon pari ne te dérange pas, ma petite chérie. Sachant que mon équipe gagnera, tu n'as rien à craindre.
Ce qui m'arrive n'a aucune importance. N'avez-vous donc pas compris?
Jagang sourit à son indomptable compagne, le genre de sourire qui dissimule des envies de meurtre lorsqu'un homme se sent insulté en public. La rencontre devenant de plus en plus passionnante, la foule menaçait de déborder le cordon de sécurité. Soucieux d'éviter des dérapages, les gardes spéciaux forcèrent les spectateurs à s'écarter davantage, dégageant une zone encore plus vaste où nul soudard n'avait le droit de s'aventurer. Jagang et Karg étant fascinés par le jeu, Kalan s'assura que ses anges gardiens l'étaient aussi, puis elle fit quelques pas pour venir se placer près de Nietzsche. Grâce aux efforts des gardes du corps, les deux femmes eurent bientôt un angle de vue tout à fait acceptable.
L'homme dont je vous ai parlé est le marqueur de l'équipe rouge,
murmura Kalan. Les peintures de guerre sont une ruse pour éviter qu'on le reconnaisse. Quelques joueurs passant devant elle, les deux prisonnières virent nettement les étranges motifs qui couvraient leur peau.
Par les esprits du bien,
murmura Nietzsche, soudain très pâle. Elle avança d'un pas pour mieux voir. Franchement inquiète, Kalan la suivit. Alors, elle repéra celui que tout le monde appelait Ruben. Le broc plaqué contre sa poitrine, il s'était lancé dans une attaque solitaire, évitant avec grâce les défenseurs qui tentaient de le plaquer.
« C'est lui !»
dit Kalan en tendant le bras. Nietzsche plissa les yeux, aperçut le marqueur et devint blanche comme un linge.
« Richard !»
Dès qu'elle entendit ce prénom, Kalan sut que c'était le bon. Il allait comme un gant au joueur au regard gris. Ça crevait les yeux tout simplement. Nietzsche avait deviné juste. L'homme ne s'appelait pas Ruben, mais Richard. Et savoir son vrai nom mettait du baume au cœur de Kalan, comme si son avenir devenait moins sombre. Craignant qu'elle s'évanouisse, Kalan plaqua une main sur les reins de Nietzsche, histoire de la soutenir. Sous sa paume, elle sentit que la magicienne tremblait comme une feuille. Maintenant flanqué de ses ailiers, Richard fit un écart pour esquiver un défenseur. Dans le même mouvement, il repéra Jagang du coin de l'œil, puis son regard croisa celui de Kalan qui sentit son cœur s'emballer. Quand il reconnut la femme debout près de l'inquisitrice, Richard faillit manquer une foulée. Il parvint à ne pas tomber, mais ses poursuivants en profitèrent pour le rattraper. Attaquant à trois, ils lui fauchèrent les jambes, un tacle dans les règles. Le souffle coupé par l'impact avec le sol, le marqueur des rouges lâcha le broc. Son ailier droit fonça sur les défenseurs, les écartant d'un coup d'épaule rageur. Richard gisait sur le ventre, immobile. Callan eut l'impression que son cœur allait cesser de battre. Au dernier moment, l'ailier gauche des Rouges faucha en pleine course un joueur adverse qui menaçait de se laisser tomber sur Richard au risque de lui défoncer le thorax. Reprenant ses esprits, le marqueur rouge roula sur le côté pour s'écarter de la mêlée, puis il se leva, un peu chancelant, mais indemne. C'était la première faute que Callan le voyait faire. Une erreur de débutant pour autant qu'elle pût en juger. Des larmes ruisselant sur ses joues, Nietzsche gardait le regard rivé sur l'attaquant de pointe des Rouges. Une idée folle traversa l'esprit de Callan. Elle l'écarta aussitôt, certaine que c'était du pur délire.